إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, ça me fait bien plaisir d'être aujourd'hui avec vous mes frères et sœurs dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et alhamdoulilah, j'ai eu la chance de faire des cours également à Bamako dernièrement et à Ouagadougou aussi au Burkina Faso, et donc aujourd'hui c'est ici, et c'est le dernier pays que je fais dans la tournée des cours que j'ai donné en Afrique de l'Ouest. C'est la première fois que je viens en Afrique de l'Ouest, mais ça me fait grand plaisir, alhamdoulilah, j'espère que ce ne sera pas la dernière, bi'ithnillah. Donc on va commencer tout de suite, inshallah, dans la lecture d'une petite risala qui a été écrite par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et c'est une risala qui s'intitule « Tawjihatun muhimma li shabab al-umma », c'est-à-dire des conseils importants pour les jeunes de la umma. Et donc le Cheikh il commence en disant « Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. فلا شك أن شباب الأمة هم أساس البناء الإنساني الذي تقوم عليه الأمة، فالشباب هم الناشئة الذين سيتحملون المسؤولية بعد آبائهم، والشباب فيهم من القوة البدنية والفكرية والمواهب الجديدة ما ليس عند الكبار، فالكبار عندهم الحكمة والتجارب، والشباب عندهم القوة والاستعداد، فإذا تعاون الشباب والكبار في النهوض بالأمة حصل الخير الكثير. أما إذا انفصل الشباب عن آبائهم وعن كبارهم تدخل الشياطين الإنس والجن فيما بينهم، فانحاز الشباب إلى اتجاه آخر يضر بالأمة. الشيخ commence en donnant la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et en envoyant la paix et le salut sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons, ainsi que sur ceux qui ont cru en lui jusqu'au jour dernier. Et il dit ensuite, il n'y a pas de doute que les jeunes de la Ummah sont la fondation de cette nation en réalité. C'est le bloc, yani, disons, qui est la base de l'humanité, yani, si on veut, parce que c'est ça ce qui va représenter l'avenir de la Ummah. Donc les jeunes, ils vont dans l'avenir prendre la responsabilité de qu'est-ce qui va suivre dans la société par la suite, après leurs parents, après leurs pères. Et donc, les jeunes, ils ont la force physique, la force également la force yani, intellectuelle et la force de pensée aussi, et ils ont beaucoup d'autres dons qui ne sont pas chez les personnes qui sont plus âgées. Les personnes plus âgées, par contre, ils ont la sagesse et ils ont l'expérience. Donc, comme le Cheikh, il essaie de nous faire voir en même temps que les jeunes, c'est vrai qu'ils ont la force et qu'ils ont la préparation, mais ils ont quand même besoin des personnes âgées pour les orienter et pour leur montrer par rapport aux expériences qu'ils ont eues de la vie, et pour les orienter et pour les guider dans l'utilisation de leur force et dans l'utilisation de leur capacité. Donc, si les jeunes se laisse orienter également par les personnes les plus âgées, eh bien, inshallah, il va y avoir beaucoup de bien pour la Ummah. Toutefois, si les jeunes prennent l'indépendance par rapport aux personnes qui sont plus âgées et puis essaient de prendre les devants sans écouter les conseils et les consignes des personnes qui sont plus vieilles, eh bien le shaitan risque de rentrer et puis de les faire dévier facilement de qu'est-ce qui est bon pour eux. Et ça on le remarque. Toutefois, yani, comme le cheikh il l'explique ici, il nous fait comprendre que on a besoin de regarder à ceux qui sont plus vieux que nous pour avoir de l'orientation, mais bien entendu il faut aussi prendre en considération que le cheikh il implique également les ulama de l'islam, les ulama de l'islam qui sont plus âgés. Donc les jeunes, comme on a dit, ils doivent retourner aux plus âgés, aux plus vieux. Et souvent on remarque, surtout dans les associations étudiantes, que les jeunes ils veulent prendre les devants des activités et de l'action. Puis ils ont tendance à dénigrer les personnes âgées et les ulama de l'islam, en particulier ceux qui ont une éducation française, une éducation francophone. Quand ils regardent les gens qui ont étudié l'islam et qui n'ont que l'arabe ou que la langue locale, eh bien ils ont tendance à les mépriser ou à les dénigrer et à ne pas leur donner le respect qu'ils méritent parce qu'ils ne parlent pas la langue française. Et ça c'est grave. Et ça c'est quelque chose qui ne devrait pas se retrouver chez nous les musulmans. Parce que la langue du Coran est la précédence sur toute autre langue. Et elle doit être honorée et respectée plus que toute autre langue. Parce que c'est la langue de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc les ulama de l'islam, peu importe qu'ils parlent français ou non, ils ont besoin, ils doivent être respectés par les jeunes. Et ils doivent être mis de l'avant. Et on doit retourner vers eux pour avoir des conseils et des orientations et des consignes pour savoir exactement de quelle manière on doit s'orienter. Et ça c'est un grand manque chez les jeunes qui font ces études francophones parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans les domaines islamiques. Et des fois, ils veulent faire beaucoup de bonnes choses pour l'islam, mais étant donné qu'ils manquent de connaissances religieuses, bien souvent, ils vont dans différentes formes de dérives. Et ça, c'est très grave et c'est très dangereux. Donc, il faut faire très attention sur ce plan-là. Comme le cheikh dit, sinon, ils se font dévier par les diables, parmi les djinns et parmi les hommes. D'accord? Et ils se font facilement tromper par des beaux discours. Donc, s'ils se laissent égarer par les shayatines, et bien à la fin ça va faire plus de mal à la umma que de bien. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الشباب فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظها أو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن صحيح. Donc le cheikh il commence sa présentation en expliquant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours donné une grande importance aux jeunes. Il a toujours donné une grande importance à orienter les jeunes vers le droit chemin. Et il donne l'exemple ici de son neveu, Abdullah ibn Abbas. Il était tout petit à l'époque, et il était monté avec lui à Dodan. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité pour lui donner quelques leçons et quelques exhortations. Et donc, il lui a dit, « Oh, enfant, ya Ghulam, jeune garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve ou garde Allah subhanahu wa ta'ala, et comme les ulama l'ont expliqué, ça veut dire préserve et garde les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver. » Et garde les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as quelque chose à demander, demande à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Et sache que si tous les hommes se mettaient ensemble pour essayer de te faire un bien quelconque, ils ne pourraient te faire de bien que ce que Allah a écrit pour toi, dans ta destinée. Et si tous les hommes se réunissent ensemble pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi dans ta destinée. Et pour terminer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin que la plume a été soulevée et que les pages ont séché. C'est-à-dire que la destinée de la création a été écrite et la plume a été soulevée et l'encre a séché. Ensuite, le cheikh il dit « فَكَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَنْهَجًا لِلشَّبَابِ يَسِرُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ وَصِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَصِيَّةٌ لِلْجَمِيعِ » Le cheikh il dit que ces paroles-là représentent en réalité une méthodologie sur laquelle les jeunes doivent marcher et ils doivent suivre ces consignes-là. Hein, c'est un consigne pour les jeunes, pour ce jeune-là en particulier, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, mais c'est aussi une consigne pour tous les jeunes de la Umma en général, et non pas seulement pour Abdullah ibn Abbas. Cheikh, il mentionne ensuite, il dit, « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذه وصية تتضمن توجيهات عظيمة للشباب في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالقضاء والقدر فهي وصية جامعة عظيمة. Donc le cheikh il dit que, encore une fois il répète le hadith, il dit lorsque tu as quelque chose à demander, demande à Allah. Et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Et sache que si tous les hommes se réunissaient pour te faire un bien quelconque, ils ne peuvent rien te faire à part ce que Allah a écrit pour toi dans ta destinée. Et s'ils se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront rien te faire excepté ce que Allah a écrit pour toi. Et la plume a été soulevée et les pages ont séché. Le cheikh il dit cette consigne, elle comprend plein d'orientations et plein de guidances pour les jeunes dans leur croyance, dans leur aqida. L'aqida, c'est plus que la croyance. Je traduis ça moi par le mot croyance, mais en réalité c'est beaucoup plus que la croyance. En fait, c'est la conviction qui est fermement ancrée dans le fond de ton cœur. C'est ce qui est dans le plus profond de ton être. D'accord? Et l'aqida, ça vient de l'aqd, du mot, du verbe aqda yaqid, où ça veut dire de faire un nœud. Lorsque tu prends une corde et que tu la tournes et tu fais un nœud, tu serres fort, eh bien ça c'est tellement solide, donc ça représente, c'est ça que ça représente en fait l'aqida. C'est qu'est-ce que tu as fait, cette croyance-là est tellement fermement ancrée dans ton cœur que c'est devenu comme un nœud et c'est impossible de le défaire. Donc c'est ça l'aqida, quand on parle de aqida, on parle de ça, de la conviction, de la croyance qui est fermement établie dans le cœur et qui reste au fond de toi. Donc il y a des consignes pour ta aqida dans ça, et dans ton comportement, et dans ton caractère, et dans ta manière dont tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu es convaincu du fait qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre, excepté ce que Allah a voulu, que ce soit dans le bien ou dans le mal, eh bien tu vas avoir le cœur en paix, parce que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu prends les causes, tu fais les causes nécessaires pour éviter le mal ou pour avoir un bien, mais tu sais qu'à la fin, le résultat c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et que tu vas avoir selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait prédestiné. Et également, donc on comprend tous que ça c'est relié avec la foi en Al-Qada ou Al-Qadar, c'est-à-dire la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un conseil qui renferme plusieurs consignes, plusieurs exhortations pour les jeunes. Et pour les vieux également, parce que bien entendu ces paroles-là, ça ne s'applique pas seulement aux jeunes, ça s'applique à tous les musulmans, qu'ils soient jeunes ou vieux. Mais cette fois-ci, c'était en particulier donné à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Ensuite, le cheikh il nous donne un autre hadith aussi, d'un autre exemple, qui est semblable à l'exhortation de Abdullah ibn Abbas, qui était une exhortation qui était donnée également à un autre jeune, qui est Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu. Il dit, « عن أنس radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ لبيك يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بما أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. Donc le cheikh il rapporte cette autre histoire aussi qui s'est produite à son époque, c'est rapporté selon Anas radiallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était encore une fois à Dodan et derrière lui il y avait Mu'az ibn Jabal cette fois-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Mu'az. Il dit « Oh Mu'az !» Et Mu'az ibn Jabal a répondu « Oui, je suis là, ô messager d'Allah. Je réponds à ton appel. » Et encore une fois, après un certain temps, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé encore une fois « Oh Mu'az !» Et Mu'az encore une fois a répondu « Je suis là, ô messager d'Allah. Je réponds à ton appel. » Et encore une troisième fois, après un certain temps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Mu'az !» Et encore une fois, Mu'az ibn Jabal a dit « Je suis là, ô messager d'Allah, je réponds à ton appel. » Il a répété trois fois. Puis après la troisième fois, il a expliqué ce qu'il voulait dire. Et ça, souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise cette méthode, c'est pour prendre l'attention de la personne à qui il s'adresse, pour lui faire comprendre que la chose qu'il va lui expliquer, c'est quelque chose de très important. Et donc là, il commençait à expliquer et il lui a dit, il n'y a aucun serviteur excepté que lorsqu'il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » sincèrement de son cœur, excepté que Allah va lui interdire l'enfer. D'accord? Donc, Mu'az ibn Jabal a entendu ça et il était très content. Et il a dit « Oh messager d'Allah, ne devrais-je pas aller et informer à tout le monde, donner à tout le monde cette bonne nouvelle, que s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec sincérité dans leur cœur, ils vont être interdits d'entrer en enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yattakilu, et si tu leur dis ça, ils vont prendre ça pour acquis et ils vont se baser uniquement là-dessus et ils risqueraient par la suite de cesser de faire les œuvres nécessaires et obligatoires pour la foi. Donc il lui a indiqué de ne pas de ne pas aller dire ça à tout le monde. Et à la fin du hadith, on a l'information que Mu'az en a informé les gens avant sa mort par crainte de commettre le péché d'avoir caché la science qu'il avait entendue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant sa mort, Mu'az ibn Jabal a cité ce hadith-là pour éviter justement d'avoir caché une science qu'il avait reçue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite le cheikh dit « فَهَذَا تَوْجِيهٌ لِلشَّبَابِ يُبَيِّنُ مِنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فحق الله على العباد واجب وفرض ليس لهم فيه اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا لم يفعلوا بل يجب عليهم ذلك أما حق العباد على الله فهو تفضل من الله عز وجل وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو تفضل وحق تفضل به سبحانه Donc le cheikh explique ici que ça c'est donc une orientation, une indication que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné aux jeunes aussi en général. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué par la suite le droit que, ou bien disons le devoir que les êtres humains ont envers leur créateur, et le droit qu'il a sur nous, le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous, et c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Et c'est-à-dire que c'est le but pour lequel on a été créé, qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans lui donner aucun partenaire dans notre adoration. Et c'est le but de notre création, comme c'est mentionné dans le verset 56, dans Surat Al-Zariyat. Allah, il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça, c'est le but fondamental de notre existence et le but pour lequel Allah nous a créés. Donc, le droit que Allah a sur ses serviteurs, hein, ce qui est obligatoire, ce qui est wajib et fard, ce sont des synonymes. Quand on dit que quelque chose est wajib et quand on dit que quelque chose est fard, les deux ont absolument la même signification. Ça veut dire que les deux ont la même signification, ça veut dire quelque chose qui est obligatoire. Donc, c'est une obligation pour les serviteurs d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de, comment on pourrait dire, c'est pas quelque chose qui est volontaire, c'est pas quelque chose qui est, que tu as le choix de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, si tu veux, tu l'adores, si tu veux pas le faire, tu l'adores pas. Non. C'est quelque chose qui est obligatoire et c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous. Et on a l'habitude aujourd'hui de parler des droits de l'homme, hein, puis on ne parle jamais du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il soit adoré par nous, hein, qu'on l'adore. Et c'est ça le plus important de tous les droits. Et ce droit-là, il a la priorité au-dessus du droit de toutes les autres créatures. Notre premier devoir, c'est d'obéir à Allah, de l'adorer et de le servir. D'accord ? Et ensuite, quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala ? Le chef explique ici que, en réalité, c'est quand on parle du fait que les serviteurs ont un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, on veut dire en réalité que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, disons, fait part de sa grâce à ses serviteurs. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire que les êtres humains lui ont imposé. Lui impose de respecter. Non. C'est parce que lui-même, il a voulu nous faire cette faveur et nous faire cette grâce de nous faire rentrer au paradis si on respecte son droit et si on l'adore lui seul. Sinon, il n'y a personne qui peut obliger à Allah de faire quoi que ce soit. D'accord? Et donc, s'il décide de nous donner un droit sur lui, c'est parce qu'il le fait et c'est une grâce de sa part et c'est une faveur de sa part. Et c'est, comme on l'a expliqué, le droit qu'on a sur lui, c'est que si on n'associe rien avec lui et qu'on ne commet pas de forme de shirk ou d'idolâtrie, d'association dans l'adoration avec lui, on n'adore rien d'autre que lui, alors dans ce cas-là, le droit qu'on a sur lui, c'est qu'il ne nous châtie pas, qu'il ne nous punit pas. Le cheikh il explique, il dit « Dalla ala anna at-tawhid ضمان من الهلاك إما مطلقا بمعنى أن لا يعذب أبدا وإما أن لا يخلد إذا عذب بذنوبه بل يخرج من النار ويدخل الجنة ما دام أنه من أهل التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. Donc le chef explique ici que, donc ça, il y a la preuve dans ça, donc on vient d'expliquer maintenant que quand quelqu'un est sur le tawhid, il a une garantie qu'il ne va pas périr et qu'il ne sera pas dans la perdition éternelle, qu'il ne sera pas dans l'enfer éternel. Du moment qu'il est sur le tawhid, il est certain ou garanti que s'il meurt sur le tawhid, il va aller au paradis. Et le cheikh explique, ça veut dire soit de façon absolue, dans le sens que il ne sera pas du tout châtié et qu'il entrera directement au paradis, ça c'est si son tawhid, son unicité d'Allah et sa pureté, la force de sa foi était très élevée et qu'elle était complète, ou bien qu'il entrera en enfer à cause de ses péchés, mais qu'il va en sortir, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va rester en enfer un certain temps, puis il va en sortir, pourquoi? Parce qu'à la base il faisait partie des gens du tawhid, des gens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça fait partie des fondements de la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a, de croire que si quelqu'un meurt sur un péché, même si c'est un parmi les grands péchés, tant que c'est pas du shirk ou du kufr, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va rester en enfer un certain temps, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, on ne connaît pas la durée, sauf qu'il va rester un certain temps, mais il ne va pas rester éternellement. Il va rentrer un certain temps, puis après, par la grâce d'Allah et par l'intercesseur de certains intercesseurs ce jour-là, de certains prophètes, hein, et bien il y aura des intercessions pour les musulmans de la Ummah qui ont commis des péchés, qui sont entrés en enfer, et Allah va faire sortir de l'enfer toute personne qui a jusqu'à une graine de moutarde de foi, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, que une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala va interdire au feu de manger dans l'enfer, c'est la marque de prosternation. Et ça c'est un des signes par lesquels on pourra distinguer les musulmans qui sont dans l'enfer des koufars. Et ça, ça nous indique en même temps la grande importance d'établir la salat et de faire les prières. Puisque en faisant la prière, quelqu'un aura le signe qui va le distinguer dans l'enfer des mouchriquins et des koufars qui ont associé avec Allah ou qui ont nié complètement la foi et les fondements de la foi en l'islam. Donc ça, ce sont des principes d'Ahle Sunna qui sont très importants, et c'est ça qui est en réalité le droit qu'on a sur Allah, c'est qu'il nous fasse rentrer au paradis, soit directement ou soit après un certain temps, comme on vient de l'expliquer en détail. Après le cheikh il dit وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُؤَبَّدًا لَا سَعَادَةَ مَعَهُ أَبَدًا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh explique ici qu'il y a également dans ce hadith et dans ce qu'on a expliqué la preuve que quiconque commet une forme de shirk quelconque, et le shirk ça comprend plusieurs choses, mais disons le sens plus complet du shirk, c'est que quelqu'un offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, parmi les différentes catégories d'adoration. Comme par exemple, offrir une invocation, faire un dua à un mort ou à une tombe, ou à un saint, ou à un ange, ou à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, ça correspond à un acte de shirk. Hein? Comme par exemple certains qui vont à une tombe pour invoquer un mort. Ça représente du shirk. Ou bien, qu'est-ce que les chrétiens font quand ils prient à Jésus, ou à Marie, ou à des saints, ou à une croix, ou à une image, ou bien qu'est-ce que les hindous et les bouddhistes font quand ils se mettent devant une statue ou une idole à eux, et bien ça aussi, tout ça c'est des formes de shirk. Et celui qui commet le shirk, et bien, il va être châtié éternellement. Et il n'aura jamais part à rien de ce qui est du bonheur éternel du paradis. Il n'entrera jamais au paradis. Celui qui meurt sur le shirk, il n'entrera jamais au paradis s'il meurt sans se repentir. Et il mentionne comme preuve de ça le verset 72 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah lui interdit le paradis, et dans l'eau et sa destination sera l'enfer, et il n'y aura aucun secoureur pour les injustes. » Et il mentionne le verset 48 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe avec lui quelque chose dans l'adoration, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. » Donc, le shirk, c'est pas juste de croire que Dieu a un fils. Le shirk, c'est pas seulement de croire que, par exemple, quelqu'un qui croit en une idole ou qui adore une idole, non. Ça peut même être quelqu'un qui adore un être humain, ou qui adore un animal, ou qui adore quelque chose d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais même si quelqu'un décide d'adorer cette boîte, hein, et il pense que cette boîte mérite d'être adorée, ça va être du shirk aussi. Et s'il le met dans sa poche et il pense que ça peut le protéger d'un mal, ou que ça peut éloigner une maladie de lui, eh bien ça va être du shirk aussi, parce qu'il a mis sa confiance en cette boîte. Et cette boîte, elle n'a aucun pouvoir. Hein? Et ça s'applique pas juste à cette boîte, mais ça s'appliquerait aussi à un porte-bonheur, ou à un talisman, ou à un gris-gris, ou à toute autre forme d'amulette que quelqu'un porte sur lui-même pour se protéger d'un mal quelconque. Ça aussi, ça représente une forme de shirk. si quelqu'un pense que d'elle-même cette amulette-là est capable de le protéger et d'éloigner un bien ou d'éloigner un mal ou de ramener un bien. Ça représente une forme de shirk majeur. D'accord? Et ça fait que quelqu'un quitte l'islam à ce moment-là. Et il n'est plus musulman, même s'il prie, même s'il jeûne. Il doit se repentir et renouveler son témoignage de la ilaha illallah pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour revenir à l'islam. D'accord? Donc ça c'est des choses très graves et très sérieuses que beaucoup de musulmans prennent à la légère malheureusement et ils ne sont même pas conscients de ça. De même que quelqu'un qui croit en un sorcier ou de la sorcellerie ou que quelqu'un connaît l'avenir ou des choses de ce genre, il va voir un magicien ou un sorcier ou un marabout pour lui demander de lui faire quelque chose pour le guérir d'un malheur ou d'une maladie ou quelque chose comme ça. Eh ben, tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qu'on a mentionné comme étant des catégories, différentes catégories de shirk. Et donc, c'est pour ça que je vous rappelle en même temps et je vous encourage et je vous incite à étudier le plus possible ce sujet-là et à l'étudier en profondeur et en détail parce que c'est la base de l'islam et c'est les principes et les fondements de la religion musulmane que malheureusement beaucoup de prêcheurs francophones négligent à l'époque actuelle. Ils n'en parlent presque jamais. Ou lorsqu'ils en parlent, ils n'en parlent pas de manière correcte. Hein? Et je suis certain que vous connaissez un personnage qu'on appelle Tariq Ramadan parce qu'il est très célèbre. Hein? Eh bien, celui-là, quand il parle de ces sujets-là, eh bien, c'est une des personnes qui est le plus ignorant en ce qui concerne les questions de fondement et de croyances islamiques. Donc, quand il parle de shirk, par exemple, il divise le shirk en l'ancien shirk et le nouveau shirk. Et donc, il dénigre les prophètes en disant que les anciens prophètes, eux, leur shirk, ils combattaient les idoles, les statues. Ça c'est passé date, selon lui, alors qu'en réalité il y a encore plein d'êtres humains sur la Terre, des millions, sinon des milliards, qui continuent encore aujourd'hui à se prosterner devant des statues et des idoles, hein. Donc c'est pas vrai que c'est l'ancien shirk, ça existe encore aujourd'hui. Et deuxièmement, non seulement ça, mais il dit que le nouveau shirk, hein, c'est qu'à l'époque, Ibrahim, alayhi salam, il cassait Coca-Cola, non, c'est son nouveau shirk à lui. L'ancien shirk, c'était de casser les statues et les idoles. Le nouveau shirk pour Tariq Ramadan, c'est de casser Coca-Cola, et de casser les multinationales, et de casser les beaux vêtements, les belles voitures. Ça, c'est ce qu'il enseigne dans ses cours. D'accord? Alors que ça, c'est pas du shirk. Ça n'a rien à voir avec le shirk. Si quelqu'un a une belle voiture, est-ce que ça veut dire qu'il est un mushrik? Il est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Quelqu'un peut, dans l'islam, il n'y a rien qui est interdit d'avoir une belle voiture. Tant que tu l'as acheté avec de l'argent halal et que tu l'utilises pour faire du bien, c'est pas du shirk d'avoir une belle voiture ou d'avoir des beaux vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit à un compagnon, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Donc comment toi tu viens et tu dis ça c'est du shirk? Ça veut dire que si un musulman a des beaux vêtements, il est mushrik, il est associé avec Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va aller en enfer pour l'éternité à cause de ça? Ça, c'est des exemples d'ignorance de la part de gens qui prêchent des idées comme ça aux gens et qui ne leur clarifient pas les fondements et les principes de la religion musulmane. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je vous mentionne ça, juste pour que vous soyez avertis et pour que vous sachiez à qui vous retournez lorsque vous voulez apprendre votre aqidah. Retournez à des ulama comme Cheikh Fawzan ou à d'autres grands ulama également qui sont spécialistes dans leur domaine, c'est pas des philosophes. Ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des chimistes, ce sont des savants de la religion musulmane. Et ils ont étudié l'islam depuis leur enfance et maintenant ils sont dans les 80 ans et ils ont passé leur vie à s'approfondir pour comprendre et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comprendre la croyance et les principes et les règles de la charia et de l'islam. Donc si vous voulez connaître l'islam, retournez à ceux qui connaissent l'islam. Retournez aux ulama et aux mashaykh, et là vous allez comprendre et connaître votre religion. C'est pas parce que vous n'avez pas accès à la langue arabe et qu'il y a des prêcheurs francophones qui sont très éloquents et qui parlent très très bien, hein, qui ont la langue des magiciens, hein, ils parlent avec un discours très séduisant, il faut se méfier de ces gens-là. Ensuite le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أن لا يعذب من لا يشرك, يشرك به شيئا, يعني كل ما أشرك مع الله من شجر أو حجر أو ميت أو حي أو جن أو إنس أو أصنام أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء, كل من يشرك مع الله شيئا فإن الله لا يغفر لمن أشرك به إلا بالتوبة إذا تاب إلى الله ورجع إلى التوحيد. أما إن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار, وقال صلى الله عليه وسلم يوما لعمر, لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه, وكان غلاما, وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه, وكان هذا الغلام يتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما حضر الأكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك, وهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام. Donc le cheikh explique par la suite, il dit que toute chose qui est associée avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que c'est cette chose-là, c'est pas nécessaire que ce soit seulement une idole, n'importe quoi, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit un mort, un être humain mort, ou un être humain vivant, ou un djinn, ou un être humain ou une idole, ou un ange, ou un messager, ou un prophète, ou un wali, hein, un saint, comme les gens les appellent. Parce que la vraie définition du wali, c'est pas le mot saint. Ça, c'est un terme que les gens utilisent maintenant pour traduire le terme wali. Mais la réalité, c'est que tous les musulmans sont des awliya de Allah subhanahu wa ta'ala. Un wali, c'est quelqu'un qui est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est croyant et qui a la foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini qu'est-ce que c'est Al-Awliya, qu'est-ce que c'est, qui sont les Awliya, c'est défini dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala inna Awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, allazina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire, certes, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Awliya, ils n'auront aucune crainte, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas non plus attristés. Ceux qui ont cru et qui ont eu attaqwa. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc toute personne qui est mu'min et qui a attaqwa, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce que Allah lui ordonne de faire et qui s'écarte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de faire, il est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et plus il obéit à Allah et plus il s'écarte de ce qui est haram, et bien plus il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas une condition pour être un wali que quelqu'un soit parfait, qu'il ne fasse jamais de péché. Sauf que s'il commet un péché, il doit se repentir. Et s'il se repent, il est toujours un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, il y a des degrés dans la foi. La foi, elle augmente et elle diminue. Et la foi d'une personne peut être plus forte que la foi d'un autre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé, il a dit que la foi de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, elle est plus élevée que la foi de la Ummah tout au complet. Et si on prenait la foi d'Abu Bakr al-Siddiq dans le côté d'une balance, et qu'on mettait la foi du reste de la Ummah dans l'autre côté de la balance, et la foi d'Abu Bakr à elle seule serait plus lourde que la foi de tout le reste de la Ummah. Du fait qu'il était le premier homme à avoir accepté l'islam, et qu'il a fait des sacrifices que personne d'autre que lui ont pu faire, et qu'il a été le premier à faire, c'est lui qui a fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'a accompagné depuis le début à travers toute sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a des mérites que personne d'autre, après, lui, ne pourront jamais avoir. Et donc, ça, c'est pour nous faire comprendre que, parmi les musulmans, il n'y a pas un wali qui est plus pieux et plus élevé dans sa foi et dans sa connaissance de l'islam que Abu Bakr al-Siddiq. D'accord ? Malgré qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent croire à des hommes parmi les soufis, parmi les gens qui se disent soufis, ils croient qu'il y a des hommes qui sont plus élevés en niveau et en degré de foi et de piété, non seulement plus élevés que Abu Bakr al-Siddiq,
mais il croit même qu'ils sont plus élevés que les prophètes.
Nasallallahu al-afiya. Donc ça c'est pour vous faire comprendre en même temps que leur notion de qu'est-ce qui est un wali, elle est complètement en contradiction avec la définition du wali dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Donc, ça c'est très important de comprendre, et donc le fait que on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ne rien associer des choses qu'on vient de mentionner à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Et comme le cheikh il le dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner à celui qui meurt en ayant commis le shirk, excepté s'il s'est repenti avant sa mort et qu'il est revenu au tawhid avant de mourir. Dans ce cas-là, oui, Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner, parce qu'il s'est repenti, il est revenu à l'islam. Mais sinon, s'il meurt sur le shirk, eh ben, il va demeurer éternellement en enfer. Et ça, ça nous fait comprendre la signification du témoignage de la ilaha illallah. La ilaha illallah, beaucoup de prêcheurs, ils ne le traduisent pas comme il faut quand ils parlent de l'islam. Ils traduisent la ilaha illallah en disant rien, il n'est de Dieu que Dieu. J'ai fait, disons, l'écoute de plusieurs des cours qui sont donnés par Tariq Ramadan, et j'ai écouté attentivement à chaque fois qu'il a mentionné des choses au sujet du tawhid et au sujet de la ilaha illallah, et je n'ai pas trouvé, une seule fois dans aucun de ses cours où il mentionnait la vraie définition de la ilaha illallah. Quand il traduit la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est de Dieu que Dieu. Et ça, c'est pas la définition de la ilaha illallah. La ilaha illallah, si tu le traduis, même en arabe, tu dois l'expliquer qu'est-ce que ça signifie en arabe. Et les ulama, quand ils expliquent la ilaha illallah, ils disent que ça veut dire la ma'bouda bihaqtin illallah. C'est-à-dire, parce que le mot ilah, ça veut dire en arabe al-ma'boud. Un ilah, c'est quelque chose que les hommes adorent, ou quelque chose que les êtres humains adorent. Peu importe qu'est-ce que c'est. Peu importe que ce soit un arbre, un animal, une chose. Tout ce que les hommes adorent, on appelle un ilah. Et comme je vous disais, si quelqu'un adore cette boîte, eh bien c'est son ilah. Mais est-ce que cette boîte mérite d'être adorée? Non. Pourquoi? Parce que c'est une création, elle n'a pas créé rien. Elle n'a pas de pouvoir ni pour elle-même, ni pour quelqu'un d'autre, elle peut ni te protéger, ni te nuire, et donc elle ne mérite pas d'être adorée. Et ça, ce que tu peux dire au sujet de cette boîte, tu peux le dire au sujet de tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, c'est la religion qui vient pour nous dire, tu dois adorer uniquement le Créateur, et non la créature. Si tu adores la créature, tu es un mouchrik. Donc Jésus, c'est une créature. Celui qui adore Jésus, il est mouchrik. Et des fois, il y en a qui disent non, on les adore pas directement, on les prend comme des intermédiaires. C'est-à-dire, on passe par eux pour aller à Dieu. Et ça aussi, c'est de l'idolâtrie, et ça aussi, c'est du shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné et commandé de l'adorer seul, lui seul et directement. Et les idolâtres de la Mecque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur posait la question, qui a créé les cieux et la terre, ils répondaient quoi? Allah. Ça veut dire qu'ils savaient que le créateur c'était Allah. Donc quand tu dis, il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de créateur que Dieu, ou il n'est de maître absolu que Dieu, est-ce que tu réponds à la question comme il faut au sujet de la ilaha illallah? Non. Parce que même les idolâtres de la Mecque, ils disaient ça eux aussi. Et donc, la vraie signification de la ilaha illallah, c'est comme on l'a dit, la ma'bouda bihaqtin illallah. C'est vrai que Allah c'est le seul créateur, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître, c'est vrai qu'il faut croire en son existence, mais ça c'est pas suffisant pour être un musulman. Pour être un musulman, il faut que tu te sois désavoué absolument et complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes. Et là, tu deviens musulman, à partir de ce moment-là. Et la raison pour laquelle les idolâtres de la Mecque refusaient de dire la ilaha illallah, c'est précisément justement parce qu'ils avaient compris sa signification.
ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à idolâtrer les idoles et adorer les idoles et dire la ilaha illallah en même temps. Le problème de beaucoup de musulmans à l'époque actuelle, c'est qu'ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Ils le répètent comme des perroquets. Et donc ils disent la ilaha illallah, puis après ils vont faire le contraire. Ils disent la ilaha illallah, après ils vont demander un saint dans une tombe. Ou bien ils vont aller sacrifier un animal pour une tombe, pour demander une guérison ou quelque chose comme ça, et ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de contredire le témoignage de la ilaha illallah. Donc le cheikh il dit, celui qui meurt sur le shirk, il sera éternellement en enfer. Ensuite, une fois qu'il a expliqué cette partie-là, il passe maintenant à d'autres consignes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à des jeunes dans d'autres sujets. Et donc il donne l'exemple d'un conseil qu'il a donné un jour à un jeune garçon qui s'appelait Omar ibn Abi Salama, le fils de Abi Salama. Et c'est un jeune homme qui a grandi dans une des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait épousé sa mère, Salama. Quand Abu Salama est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Salama. Et donc, ce garçon-là, il a été éduqué dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, on a présenté la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le jeune était assis en présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné quelques règles à suivre pour manger avec lui. Il a dit, ô jeune garçon, lorsque tu manges Samillah, c'est-à-dire tu dis Bismillah, et tu manges avec ta main droite, et tu manges ce qui est devant toi. Donc, ça ce sont des indications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce jeune homme pour lui montrer les bonnes manières en ce qui concerne la façon de manger. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn Abi Salama. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam li'umum al-shabab, ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa'innahu أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فأمر الشباب بحفظ فروجهم إما بالزواج إن استطاعوا وإما باتخاذ ما يضعف الشهوة ويقللها وهو الصيام خوفا عليهم من الوقوع في الفتنة وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. Donc le cheikh il dit que par la suite également, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné des conseils aux jeunes en général. Et parmi ces conseils-là par exemple, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui est capable de se marier, alors qu'il le fasse. Parce que en se mariant, il va être plus apte à baisser son regard et à protéger ses parties intimes, c'est-à-dire à ne pas tomber dans le zina et dans ce qui est haram. Et s'il n'est pas capable de se marier, alors qu'il fasse des jeûnes, souvent, pour faire en sorte que ce soit comme une protection pour lui. Parce que le fait de jeûner, ça coupe le désir. Ça coupe le désir, parce qu'il y a moins de nutriments dans le sang, et donc, dans ce cas-là, ton shaitan, il a moins de force pour te pousser à faire ce qui est mauvais. Parce que le shaitan, il circule dans le corps de l'homme comme le sang. Donc, du moment que tu as moins de nutriments dans ton sang, et bien à ce moment-là, le shaitan a moins de force pour t'inciter et te pousser à faire ce qui est haram. Et donc, tout ça, c'est des indications et des leçons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données. Pour les jeunes de la Ummah. Ensuite, il dit, فهذه الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة للشباب. فيجب عليهم أن يتمسكوا بها. وقال صلى الله عليه وسلم, من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, شاب نشأ في عبادة الله. إذا نشأ على عبادة الله ولم تأخذه طرفة الشباب أو طفرة الشباب ونزوة الشباب إلى المعاصي, بل تغلب على ذلك طاعة لله, فإنه ينال هذه الكرامة يوم القيامة بأن يظله الله في ظله يوم الحر الشديد
والشمس القريبة من الرؤوس يوم العرق يظل الله فئام من الناس في ظله ومنهم شباب نشأ في عبادة الله.
Donc le cheikh il explique également que il y a sept catégories de personnes qui vont être couvertes sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Et parmi ces sept catégories de personnes, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et en principe dans l'islam, yani d'après la définition, comment les ulama ils expliquent, c'est que yani les ulama, les savants de la langue, ils expliquent qu'on est un jeune, on est un shab jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc on est tous des shababs, hein, inshallah. Et donc, quelqu'un qui grandit dans l'adoration d'Allah, eh bien, inshallah, il sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. إِذَا نَشَأَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ il a grandi dans l'adoration d'Allah. Il n'a pas été poussé par les désirs de l'adolescence ou la jeunesse, hein, par les désirs que les jeunes ont de faire certains péchés. Ce jeune-là, lui, il n'a pas suivi les autres. Il ne s'est pas laissé tirer par ses désirs et ses passions. Il s'est retenu et puis il s'est concentré dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, c'est un jour, le jour de la résurrection, où il y aura une chaleur terrible. Et le soleil sera rapproché des têtes. Et les gens seront remplis de leur transpiration. Certains auront leur transpiration jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la taille, d'autres jusqu'aux épaules, d'autres jusqu'au cou, et certains vont même être noyés dans leur transpiration ce jour-là, tellement le soleil sera rapproché et qu'il fera chaud. Et c'est un jour qui dure 50 000 ans. Alors, imaginez la scène. Alors, bien entendu, c'est difficile à comprendre, mais c'est-à-dire, c'est un jour terrible. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est un jour terrible. Parmi les hommes qui sont ce jour-là, il y en a des catégories qui sont sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont couverts de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sentent pas la chaleur. Et parmi ces catégories-là, il y a le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il ne sent pas la chaleur parce qu'il y a un ombre au-dessus de lui. Donc, on voudrait tous faire partie de une de ces sept catégories-là et on a, inshallah, la capacité de faire partie de celle-là si on fait l'effort. وفي حديث وفي الحديث الآخر عجب عجب ربك من شاب ليس له صبوة يعني تغلب على شبابه وعلى نزاوته وعلى ما يعتري بعض الشباب وتغلب على ذلك طاعة لله عز وجل فالله يعجب منه لأنه امتاز بميزة عظيمة ومعنى ذلك أن الله يكرمه ويحفظه في الدنيا انظر إلى قوله لابن عباس رضي الله عنه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Donc ici il y a un autre hadith qui est rapporté dans Al-Musnad de l'imam Ahmad selon Uqba ibn Amir qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne d'un jeune qui n'a pas de désert lorsqu'il est un jeune, il n'a pas les tentations et les déserts comme le reste des jeunes de son âge. Il ne s'adonne pas ou il ne court pas derrière ses plaisirs et ses tentations-là. Donc, celui-là, c'est un jeune qui a eu le dessus sur ses passions, qui s'est retenu de tout ce qui est désert et des choses haram, et il s'est adonné à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne à ce moment-là de ce jeune-là. Et donc, ça, c'est un des mérites énormes de cette catégorie de jeunes. Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer et va le préserver dans la dunya. Le cheikh, il dit, regardez la parole d'Abdullah ibn Abbas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta'arraf ila Allah fi raha, ya'arifuka fi shidda. Apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es en moment d'aisance, souviens-toi de lui, adore-le lorsque tu es en moment d'aisance, et et lui de son côté, il va se souvenir de toi et il va te t'aider lorsque tu seras en difficulté. Parce qu'il y a des gens parmi les êtres humains aujourd'hui qui n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque tout va mal. Quand ils ont des problèmes, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tout va bien, ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas du tout à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne le prient pas ou bien ils ne pensent même pas à le remercier ou quoi que ce soit. Ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout va bien dans leur vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, non, c'est pas comme ça, c'est le contraire. Si tout va bien, souviens-toi d'Allah comme ça. Quand ça va aller mal, Allah subhanahu wa ta'ala va se souvenir de toi et il va t'aider. فَإِذَا عَبَدْتَ اللَّهِ وَتَقَرَّبْتَ إِلَيْهِ فِي حَالِ الرَّخَاءِ وَقَعْتَ فِي شِدَّةٍ وَكَرْبِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يُنْقِذُكَ مِنْ هَذَا الضِّيقِ وَهَذِهِ الشِّدَّةِ وَمِنْ هُنَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ أَنْ يُرَبُّوا أَوْلَادَهُمْ فَالشَّابُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِأَسْبَابٍ وَأَعْظَمُ الْأَسْبَابِ التَّرْبِيَةُ الصَّالِحَةُ فَيَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ أَنْ يُرَبُّوا أَبْنَاءَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وينشئوهم عليها حتى يكبروا عليها ويألفوها ويأخذوا بها. أما إذا أهملوها أو أهملوهم نشأوا على الغفلة وعلى نزوة الشباب فيضيعوا في المجتمع. ولهذا كان في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لأولادهم وذرياتهم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام Rabbi, j'alni muqima salah wa min zurriyati. Donc le chef il nous explique ici que lorsque tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de facilité et d'aisance et que tu tombes dans un malheur ou une détresse, Allah va te sauver de cette difficulté là et de ces problèmes. Et c'est donc à ce moment que le chef il dit que c'est obligatoire aux parents de bien éduquer leurs enfants, parce que le jeune, il ne pourra pas devenir bon, excepté s'il y a eu des causes ou des moyens pour faire en sorte qu'il reste bon. Et ça, même si aujourd'hui, bon, là, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une femme et des enfants, et donc ça s'adresse à vous, et si vous n'en avez pas encore, eh bien sachez que c'est une leçon également pour vous, puisque un jour ou l'autre, Inch'Allah, vous allez en avoir. Et vous devez prendre en considération les conseils que le cheikh il est en train de donner à ce sujet-là, parce que ça va beaucoup vous aider dans l'éducation de vos enfants aussi. Et donc, le cheikh il dit que parmi les causes qui vont faire en sorte que vos enfants vont être des bons musulmans, des bons croyants, parce que en fait c'est ça le but pour lequel on a des enfants. On n'est pas comme par exemple des oiseaux, hein, on fait des poussins puis une fois qu'ils savent voler, on les laisse partir et puis c'est fini. Non, on a une éducation à faire, hein, et on a des valeurs à leur transmettre et des principes et une foi à leur transmettre. Et cette foi-là, ils vont la prendre de nous s'ils la voient et qu'elle est vivante en nous, d'accord. Donc, une des causes les plus grandes par rapport à ça, c'est que bien entendu, les parents fassent attention à l'éducation et qu'ils donnent une bonne éducation à leurs enfants. Qu'ils éduquent leurs enfants dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que lorsqu'ils, étant donné qu'ils ont grandi sur cette obéissance-là, quand ils vont vieillir, quand ils vont devenir plus vieux, ils vont rester sur cette obéissance. Et comme il y a un cheikh une fois qui nous expliquait, même quand on était à Médine, il nous donnait les durus, les cours dans la classe, et pendant un des cours, il nous a donné une petite sagesse comme ça qu'il a partagé avec nous. Il a dit, fais en sorte que ton enfant, lorsque tu l'éduques sur la bonne aqidah, et sur la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Pourquoi? Parce que si jamais, plus tard, il s'égare du droit chemin, puis qu'il tombe dans les péchés et dans le mal, si un jour il décide de se repentir et qu'il décide de revenir à la religion, il va revenir à ce qu'il a connu quand il était petit. Il va revenir à la religion telle qu'on lui a enseigné quand il était petit. Et donc si on lui a appris la sunna, il va revenir à la sunna. Tandis que si on lui avait appris la bid'a, eh bien, il revient à la bid'a. Et c'est ça ce qui arrive souvent, malheureusement. Donc, de donner aux enfants la bonne éducation et de les élever dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que lorsqu'ils deviennent plus vieux, eh bien, c'est plus facile pour eux et ils l'aiment et ils la connaissent déjà parce qu'ils l'ont déjà appris depuis qu'ils étaient tout petits. Et donc, c'est la manière dont on doit élever ces enfants-là. Mais de les négliger, de les éduquer sur l'insouciance et l'indifférence, comme beaucoup de parents aujourd'hui malheureusement élèvent leurs enfants, ça c'est pas correct. D'éduquer les enfants et de les élever dans l'indifférence et dans l'insouciance par rapport à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et de les laisser suivre leurs désirs et leurs passions à l'adolescence quand ils commencent à devenir plus vieux, c'est ça ce qui amène la perte de la société. C'est ça ce qui amène le mal dans la société. Et regardez les jeunes qui traînent dans les rues, comme on les appelle, nous, les voyous, bien des vagabonds. Eh bien, c'est des jeunes qui traînent dans la rue. Pourquoi ils sont devenus comme ça? C'est souvent parce que leurs parents ne sont pas préoccupés d'eux. Ils ne les ont pas, n'ont pas fait attention à leur éducation. Et vous allez voir que quand ils vont être vieux plus tard, eh bien, ils vont être ignorants plus tard. Ils vont vieillir dans l'ignorance. Et c'est ça qui est malheureux. Il faut commencer notre éducation quand on est jeune, parce que c'est un bagage que tu remplis tout au long de ta vie. Toute la science que tu acquiers au fur et à mesure que tu avances dans ton existence, eh bien, c'est des choses qui vont rester. Puis quand tu deviens vieux, tu vas être une lumière pour les jeunes par la suite. Mais si vous regardez ces jeunes aujourd'hui, ou bien disons, des personnes qui sont âgées aujourd'hui, mais qui n'ont pas étudié quand ils étaient jeunes, et qui n'ont pas profité de leur jeunesse pour étudier et pour apprendre, eh bien, quand ils vieillissent, ils n'ont pas le respect des jeunes. Souvent, c'est une des causes pourquoi les jeunes n'ont plus de respect aujourd'hui pour les personnes âgées. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui est contraire à l'islam. Mais aussi, c'est pour faire comprendre en même temps que, si vous voulez, plus tard, que les jeunes vous regardent et vous voient avec respect, eh bien, vous devez avoir quelque chose à leur transmettre. Et vous devez avoir des leçons à leur donner plus tard. Et ça va être grâce, Inch'Allah, à la science que vous allez apprendre aujourd'hui, qui va rester avec vous. Et que lorsque vous allez, regardez les savants d'Islam maintenant, les grands savants dans le monde musulman, qui ont passé l'âge des 80, qui ont la barbe blanche, vous regardez dans leurs cours, des fois, vous voyez jusqu'à 500, même 1000 élèves qui suivent leur durus. Et ce sont des jeunes. Ça, c'est des lumières qui éclairent la jeunesse, qui éclairent le monde entier avec leur science. Parce que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas perdu leur temps à courir à gauche et à droite. Ils ont profité de leur temps pour augmenter leur compréhension et leur science et leur connaissance de l'islam et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas négligés, il les a préservés par la suite. Et vous êtes étonnés parfois de les voir, malgré leur âge avancé, ils ont toujours une mémoire très fraîche. Ils sont capables de citer les versets, de citer les hadiths. Hein? Vous ne diriez jamais que ce sont des personnes âgées comme ça. Tandis que vous voyez d'autres personnes plus vieilles, ou moins vieilles, mais qui sont d'âge un peu plus avancé, ils ne peuvent même plus se rappeler de rien. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait travailler leur mémoire quand ils étaient jeunes, à mémoriser le Coran, à mémoriser les hadiths. Et ça, vous avez plein de gens maintenant qui souffrent de cette maladie qu'on appelle Alzheimer, à cause de ça, à cause du fait qu'ils cessent d'utiliser leur mémoire. Et donc, il faut travailler cette capacité-là et ces attitudes-là quand on est jeune, pour qu'Inch'Allah, quand on est plus vieux, eh ben, elles restent avec nous. Et le cheikh il nous donne l'exemple par rapport au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il dit que les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah, ils invoquaient toujours pour leurs enfants. Ils faisaient toujours des du'as pour que Allah subhanahu wa ta'ala préserve leurs enfants du mal et pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et il donne l'exemple d'Ibrahim, alayhi salam, dans le verset 40 dans surat Ibrahim, dans lequel on voit un du'as. Et il dit, oh mon Seigneur, fais que je sois parmi ceux qui établissent la salat, de même que mes enfants. Wa min zurriyati, ma progéniture aussi. Wa qala Zakariya, alayhi salam,
Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. لم يقل هب لي من لدنك ذرية فقط وسكت بل قال طيبة لأن الذرية الطيبة هي الذرية الحقيقية. الشيخ الزي كمام زكريا c'est la même chose. Le prophète Zakaria عليه السلام il a dit: Oh mon Seigneur, donne-moi de ta part une descendance qui va être bonne, fais que j'ai une descendance qui est bonne. Et certes, tu es celui qui entend les invocations. Et le cheikh, il fait un petit commentaire ici et il dit, Zacharie n'a pas seulement demandé une progéniture ou une descendance et puis il s'est arrêté là. Non, il a dit, donne-moi une descendance qui est bonne. Il a spécifié une descendance qui est bonne, pas juste n'importe quelle descendance. Maintenant, vous avez des gens, yani, Allah al-Musta'an, dans les pays comme le Canada et l'Europe et d'autres, les pays soi-disant civilisés, les gens ils ont des enfants, ils ne savent même pas pourquoi ils ont des enfants. Et souvent vous les entendez, même ils disent à leurs enfants, t'es un accident. Comment, pourquoi un accident? Parce que, yani, c'est-à-dire, ils ont fait des choses haram, et par, yani, sans avoir préparé ça, sans vouloir ça, ils ont mis une femme enceinte, la femme elle est tombée enceinte, elle dit à son enfant plus tard, t'es une erreur, je voulais pas t'avoir. A'udzubillah. De toute façon, nous, alhamdulillah, on sait, on croit en al-qada wa al-qada, et on sait que si cet enfant-là est né, Allah a voulu qu'il naisse, et Allah a voulu qu'il existe. Mais de dire ça à un enfant, c'est de lui briser le cœur. Et c'est quelque chose de cruel. Mais c'est pour vous dire comment les gens maintenant, dans les pays comme ces pays-là, yani, ils ont même plus ce qu'ils appellent l'humanisme, et ben ils l'ont même plus, hein, pour dire des paroles pareilles à leurs enfants. Donc on voit contrairement à ça, les prophètes eux, ils non seulement, hein, ils demandent à Allah de leur donner des enfants, mais de leur donner des bons enfants, et de faire en sorte que leurs enfants soient des adorateurs d'Allah, qui craignent Allah. Donc quand on a des enfants en fait, juste pour résumer en fait, pour vous rajouter un petit peu plus de détails, c'est que lorsqu'on fait des enfants, notre intention en ayant ces enfants-là, c'est de faire en sorte que on augmente le nombre des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Des êtres qui vont venir au monde et qui vont accomplir le but de leur existence et la raison de leur existence, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. De faire en sorte qu'il y ait plus d'adorateurs et plus de croyants, plus de mu'minines sur la terre. C'est ça le but pour lequel en premier on devrait vouloir avoir des enfants. Hein? C'est pas juste parce que c'est, comme on dit, la nature qui suit son cours, non. Nous, tout ce qu'on fait dans notre vie en tant que musulmans devrait être fait pour adorer Allah. Donc dans chaque chose qu'on fait, ça doit être une adoration. Et même quand on fait des enfants, ça doit être fait selon les règles de l'islam et avec une bonne intention, qui est une intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, même de faire des enfants, ça rentre aussi dans la notion de faire des adorations et de vivre notre vie selon le plan que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour les créatures. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا بعد موته وفي حال هرمه وكبره أو كبره يبر به ويخدمه ولده الذي رباه ويدعو له. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو لهم بسبب التربية الصالحة التي نشأته على الخير. وسببا في سعادته فيقابل إحسانهم بالإحسان ومن هنا تجب العناية بالأولاد فإن الرجل إذا أراد الزواج يختار المرأة الصالحة التي من فوائدها أنها تربي الأولاد على الخير إذا كانت صالحة لأنها موضع البذر والنسل فيختار الزوجة الصالحة. Donc le cheikh explique ici que lorsque quelqu'un meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes ses œuvres sont arrêtées, sont interrompues, excepté trois, excepté pour trois choses. Une sadaqa qui continue à porter des fruits, sadaqa jariya, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui a planté un arbre à fruits et cet arbre-là continue à porter des fruits après sa mort. Et les oiseaux viennent manger de cet arbre, et les êtres humains en mangent aussi. Ça, c'est un exemple de sadaqa jariya. Tu continues à avoir des hasanats pour ça même après ta mort. Ou quelqu'un qui a écrit un livre sur l'islam pour les musulmans, puis après sa mort, les gens continuent à le lire. Et il a des hasanats pour ça. Donc ça aussi, c'est des exemples. La deuxième catégorie, c'est par exemple une science par laquelle de laquelle les gens vont profiter, comme le livre que j'ai mentionné. Quelqu'un qui a écrit un livre, puis cette science-là va profiter le monde. Ou bien un enfant qui est pieux et qui va invoquer pour ses parents. Et donc, le cheikh, il essaie de nous faire comprendre ici que si tu as bien éduqué tes enfants, ben plus tard tes enfants vont faire des du'as pour toi. Et ils vont continuer à te faire accumuler des hasanat, même après ta mort, à cause de leurs invocations pour toi. Tandis que si tu n'as pas bien éduqué tes enfants, ils ne vont même pas penser à faire les du'as, peut-être qu'ils vont même rejeter la foi. Donc ça c'est grave. Donc, ça c'est après la mort, mais également, non seulement après la mort, même quand la personne, il a bien éduqué ses enfants, et qu'il est encore vivant et qu'il devient vieux, eh bien, ses enfants, s'il les a bien élevés, ils vont bien s'occuper de lui. Ils vont faire attention à leurs parents, les enfants. Tandis que, comme vous voyez, dans certains pays, Annie, soi-disant civilisés, eh ben, on met les parents, quand ils sont devenus trop vieux, dans des maisons spéciales pour les personnes âgées, et il y a des infirmières, soi-disant, qui vont s'occuper d'eux, et ils meurent dans l'oubli, comme ça. Hein. Donc, ça, c'est des exemples. Et il mentionne le verset 23 et 24 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ton Seigneur a ordonné que tu ne dois rien adorer excepté lui, et d'être bon envers tes parents. Et ensuite, il y a des consignes qui disent que si tes parents arrivent à un âge avancé, ou bien les deux, ou bien un seul d'entre ces deux-là commence à devenir vieux, eh bien, ne leur dis pas de paroles dures, ne leur dis pas ouf même, hein, comme il y a des jeunes aujourd'hui qui envoient promener leurs parents, wal'iyadu billah, eh ben, il y en a qui disent des paroles pires que ouf. Et donc, il y a de traiter nos parents avec miséricorde et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, comme dans le verset, وَقُلْ رَبِّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme eux, quand j'étais petit, ils m'ont éduqué. Et vous pouvez voir comment une mère, comment elle prend de son temps, de son affection, de sa santé pour son enfant, tout l'effort qu'elle donne, tout le sacrifice qu'elle fait, et l'accouchement dans la difficulté, tout ça pour prendre soin de toi quand tu es bébé. Parce que si on te prend à la naissance et qu'on te laisse tout seul, puis qu'on t'abandonne, c'est fini pour toi. Hein? Donc tu as besoin d'une mère et tu as besoin d'un père qui vont bien s'occuper de toi pour faire en sorte que tu puisses vivre. Eh bien, comme eux, ils ont eu cette miséricorde-là envers toi quand tu étais petit, et que tu les as empêchés de dormir, et que tu les as forcés à changer tes couches, etc., eh bien toi, maintenant quand eux ils sont devenus vieux, prends aussi de cette miséricorde-là pour t'en occuper d'eux aussi. Et ça, c'est des choses importantes, surtout à l'époque actuelle, parce que c'est des choses que les gens, maintenant, ils ont négligées complètement.
Donc, le jeune enfant qui a été éduqué dans une éducation islamique et qui a eu des bons parents, quand ses parents deviennent vieux, il continue à s'occuper d'eux et ça, ça va être une source de bonheur et une cause de bonheur pour lui. Comme ça va être une source et une cause de bonheur pour ses parents également. On remet le bien par le bien. On remet du bien par du bien. Et donc, ça, ça nous indique que c'est très important de bien s'occuper de nos enfants. Et souvent, des fois, les enfants développent une certaine attitude, parfois, envers leurs parents, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été négligés quand ils étaient enfants, ou bien que leurs parents ne se sont pas bien occupés d'eux. Et donc, plus tard, ils développent une amertume envers leurs parents. Mais il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est que même si tu peux avoir l'impression que tes parents ne se sont pas bien occupés de toi, ça ne justifie pas que toi, de ton côté, tu les négliges ou que tu les maltraites. Ne remets pas le mal pour le mal. Au contraire, même s'ils ne se sont pas bien occupés de toi, selon ce que certains peuvent imaginer, même si tu penses qu'ils ne se sont pas occupés de toi comme tu méritais qu'ils s'occupent de toi, eh bien toi de ton côté, remets-leur le bien. Et puis tu auras la récompense énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas avoir cet instinct ou ce sens de vouloir toujours se venger puis de remettre le mal aux gens et d'avoir de la rancune pour les gens qui nous ont fait du mal. Parce que ça, à la fin, ça ne ramène rien de bon de toute façon. Et donc, il dit également que pour arriver à ce résultat-là, d'avoir des bons enfants, eh bien, ça commence par une chose qui est très importante aussi, c'est le choix de l'épouse. Parce que si tu veux avoir des enfants qui vont être bien éduqués, eh bien entendu, si la femme que tu as choisie n'est pas une bonne épouse, eh bien, elle ne pourra pas bien éduquer les enfants. D'accord? Donc, ça commence également par le choix de la femme qui est pieuse. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ لِأَرْبَعَةِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, en général, les hommes épousent les femmes pour quatre raisons. Soit pour ses biens, parce qu'elle a une richesse, ou elle a eu un héritage, donc elle est très riche, ou bien parce que elle vient d'une famille qui est très respectée, hein, qui est une famille noble, donc à cause de ça, quelqu'un veut avoir une partie de cette noblesse-là, donc il va se marier avec elle pour ça, ou bien il va se marier avec elle à cause de sa beauté, parce qu'elle est d'une très grande beauté, donc il veut l'épouser, ou bien pour sa religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, épouse celle qui a la religion, sinon malheur à toi. Taribat yadak. Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La tanzur ila al-jamali wahda, wala ila al-mal, wala ila al-hasab, wal-manzila inda al-nas, walakin unzur ila al-din, li'anna al-din yajma'u al-khayr kullah, amma ghayr al-din, faqad يحمل المرأة على ما لا تحمد عقباه جمالها قد يغري بها والمال قد يطغيها والحسب تتكبر به على الرجل أما صاحبة الدين فإنها لا يأتي بها أو لا يأتي منها إلا خير فإذا رزق منها بذرية صالحة فإنها توجههم وتربيهم على الخير. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que tu ne dois pas juste regarder la beauté seulement, et tu ne dois pas regarder l'argent seulement, ou le statut, ou la noblesse, ou des choses de ce genre. Parce que ça, c'est ce que les gens regardent en général, mais regardent surtout la religion. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas choisir une femme qui te plaît, ça veut juste dire que tu dois mettre en priorité la religion. D'accord? Et si tu as une femme qui a une bonne foi et une bonne religion, alors tu as réuni tout le bien. Parce que la femme, par exemple, qui n'a pas la religion, eh bien, ça risque de t'amener dans des conclusions, des choses qui vont être mauvaises pour toi à la fin. Comme par exemple, si tu maries une femme uniquement pour sa beauté, et puis, eh ben, sa beauté peut faire en sorte que, yani, ça lui monte à la tête, et puis elle se prend pour quelqu'un d'autre, et puis elle te respecte pas, yani, à cause de ça. Elle se dit, de toute façon, moi, je pourrais avoir tous les hommes que je veux, donc, yani, je suis pas obligé de te respecter ou de te prendre plus en obéissance que ça. Et si elle a beaucoup d'argent, ben ça peut l'amener à transgresser et à dénigrer son mari. Ou bien si elle a un statut de noblesse, ça peut l'amener à se sentir orgueilleuse et fière et s'élever au-dessus de son mari. Et ça, mais si elle a la religion, eh bien elle a réuni tout le bien. Et puis ça va la protéger de tous ces mauvais comportements-là. Hein? Si elle est belle, mais qu'elle a la piété, et qu'elle est croyante, elle va savoir que sa beauté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Et qu'elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et l'utiliser, sa beauté, dans le bien. Et dans ce que Allah aime. Et non pas le prendre pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire ce que Allah déteste avec cette beauté. Pour faire le haram ou faire le mal. La même chose pour la noblesse est pour la richesse. Si elle a la foi et qu'elle est riche, alhamdoulilah, elle pourra faire du bien avec son argent. Et elle va être humble et reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette richesse qu'elle a reçue. Et elle ne va jamais s'enfler d'orgueil. Mais c'est pour ça qu'on dit que la religion c'est fondamental. Et si elle a la religion, alors elle a tout le bien. Et si elle a des enfants, cette femme-là, eh bien, elle va les éduquer et elle va les orienter d'une bonne manière. D'accord? Et ça, c'est très important parce que ce sera une mère qui sera dévouée et qui va donner beaucoup d'affection et beaucoup d'orientation et beaucoup d'enseignement à ses enfants. Et donc, ça, c'est très important. Et le cheikh, il dit ensuite, « وَكَذَلِكَ يَشْرَعُ الْأَبْ إِذَا رُزِقَ بِمَوْلُودٍ أَنْ يَخْتَارْ لَهُ الْإِسْمُ الْحَسَنِ فيسميه باسم حسن ولا يسميه باسم مكروه لأن الاسم له تأثير على المسمى وكل له من اسمه نصيب كما قال أو كما يقولون وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن يعني بأن يعبد لله باسم من أسمائه كعبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد الكريم إلى آخره أو يسميه محمدا صلى الله يعني محمد à chaque fois que je lis le nom de Muhammad j'ai le réflexe de dire صلى الله عليه وسلم alors il donne un exemple de nom ici أو عليا أو صالحا أو غير ذلك من الأسماء الطيبة ولا يسميه باسم تنفر منه الأسماء أو فإن الاسم له تأثير على السامع Le Cheikh explique ici que parmi les responsabilités également du père lorsqu'il a un enfant, c'est qu'il doit choisir un bon nom pour son fils. Ok? Et donc il l'appelle par un bon nom et il ne lui donne pas un nom qui est mauvais. Parce que le nom, il va avoir un impact sur la personne. Ton nom va avoir une influence sur toi en fait. C'est ce que ça signifie. Donc si tu as un bon nom, ça va avoir un bon effet sur toi. Toutefois, si tu as un nom qui est mauvais, ça risque d'avoir une mauvaise influence sur toi. Et il dit que les meilleurs noms, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est Abdullah et Abdurrahman, comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Ibn Omar radiallahu anhuma. Et le cheikh il dit que ça veut dire que tu donnes à ton enfant un des noms parmi les noms qui commence par Abd et que tu mets un nom d'Allah à la suite, comme Abdullah ou Abdelaziz ou Abdurrahman et Abdulkarim ou autre. Et ou bien tu peux lui donner également un nom d'un prophète ou un nom d'un sahabi, hein, comme le nom du prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Ali, ou bien Salih, ou bien un nom parmi les beaux noms. Et tu ne lui donnes pas un nom qui fait fuir. Quand tu l'entends, il y a un nom qui n'est pas très beau à l'oreille ou des choses comme ça. Et yani, pourquoi? Parce que le nom, il va avoir un effet sur la personne qui l'entend et sur la personne qui est nommée par ce nom-là.
ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهو مشرك لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم تفاؤلا باسم سهيل فالاسم الطيب لا شك أن له تأثيرا على من يسمعه وعلى من يسمى به.
Le cheikh il dit que lorsqu'il y avait l'entente ou le pacte de Al-Hudaybiyah, eh bien un des mushrikins qui était venu pour négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se nommait Suhail. Et Suhail, c'est la forme rapetissée de Sahl. Et Sahl, ça veut dire qu'est-ce qui est facile, la facilité. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Suhail, et à ce moment-là c'était un mushrik, il est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sauvez la lakum min amrikum » c'est-à-dire votre affaire, en s'adressant aux musulmans, il a dit « Votre affaire vous a été facilitée » à cause du fait qu'il a entendu qu'il s'appelait « Suhail » et c'est la forme rapetissée de « Sahl ». Donc, c'est pour dire que le bon nom, il a un effet positif sur la personne qui l'entend et sur la personne qui est nommée par ce nom-là. Et bien entendu, يعني, il y a beaucoup d'autres.
Ensuite, le chef dit وكذلك من حقوق الولد على والده أن يعق عنه بأن يذبح عنه العقيقة عبادة لله وشكرا لله عز وجل لأنها فيها تقرب لله وشكر لله وفيها تأثير حسن تأثير حسن على المولود. لأن العبادة فيها خير فيذبح على الغلام شاتين وعلى الجارية شاة واحدة وهذه السنة مؤكدة لها تأثير طيب على المولود قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ويسمى فهذه أسباب لصلاح المولود وإجراءات يتخذها الولد.
Donc le cheikh il dit ici que également parmi les droits que l'enfant a sur son père, c'est que son père lui fasse une aqiqa. C'est-à-dire que ça c'est une acte d'adoration qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le remercier d'avoir eu cet enfant-là. Et c'est une manière de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a un bon effet sur l'enfant. Ça va avoir un bon impact sur l'enfant. Parce que l'adoration, c'est toujours bien. D'accord? C'est toujours un bien d'adorer Allah. Et au moment de la naissance, donc, de faire cette adoration-là, c'est un bien pour l'enfant aussi. Et donc, on doit sacrifier pour un garçon deux moutons, ou pour une fille, un mouton. Et c'est une sunna qui est confirmée, mu'akkada, et donc ça a un bon effet sur l'enfant. Et comme le cheikh il mentionne ce hadith qui dit « Kullu mauloudun murtahanun bi'aqiqatihi » Chaque enfant qui naît, il est comme mis, il est comme placé en gage par rapport à sa aqiqa. Donc on doit faire ce sacrifice-là le septième jour, et on va raser sa tête et on va lui donner un nom. Et ça, ça va faire partie des causes qui vont faire en sorte que cet enfant-là va être bon, Inch'Allah. Et il y a également d'autres choses également que le père doit faire aussi à cette occasion-là. Après le cheikh il dit « وَكَذَلِكَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَنْ يَنْفُذُوا أَوْ أَنْ يَنْفُذَا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأولاد في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالوالد راع ومسؤول على أو عن رعيته والأم كذلك راعية ومسؤولة
فعليهم أن يأمروا أولادهم إذا بلغوا سن السابعة بالصلاة ويأمروهم بها وإن كانت ليست واجبة عليهم ولكن لأن لها تأثيرا طيبا عليهم لأن أو لأجل أن يتدربوا عليها ويألفوها. Le Cheikh dit que également, les parents doivent exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers leurs enfants. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Abi Dawood, selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, lorsqu'il a dit, ordonnez à vos enfants de faire la salat lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les s'ils ne la font pas à l'âge de 10 ans. Et séparez-les dans les lits à partir de cet âge-là. Donc, le père, il est comme un berger pour sa famille et pour ses enfants. Et la mère également, elle est comme une bergère pour ses enfants dans sa maison. Et donc, ils ont une responsabilité. Et au jour de la résurrection, ils seront questionnés pour la manière, par rapport à la manière dont ils ont éduqué leurs enfants. Et donc, c'est ça, en arabe, mas'oul. En français, on dit responsabilité. En arabe, c'est mas'oul, hein, ou mas'ouliya. Ça veut dire que tu vas être mas'oul. Ça veut dire que tu vas être questionné. C'est ça que ça veut dire. Au jour de la résurrection, tu vas être mas'oul. Ça veut dire que tu vas être questionné. Ça veut dire ça, il a yas'alou. Que quand quelqu'un, il pose une question, eh bien, mas'oul, c'est une des formes qui veut dire la personne va être questionnée au jour de la résurrection pour l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Et donc, nous, quand on dit une responsabilité, c'est toujours une responsabilité en premier vis-à-vis notre Créateur. Et donc, l'éducation de nos enfants, c'est une responsabilité qu'on a en premier devant Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on va être questionné au jour de la résurrection sur la manière dont on a éduqué nos enfants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara » Oh, vous qui avez cru, yani, sauvez-vous-même et vos familles de l'enfer. Parce que vous allez être questionné au jour de la résurrection sur ça. C'est pas quelque chose comme ça, on fait des enfants puis ça y est, c'est fini, non. Au jour de la résurrection, Allah va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants? Comment tu les as éduqués? Hein? Et ça, c'est grave pour les gens qui, yani, les gens qui ont des enfants comme ça puis qui les. Allah musta'an. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si il y a des enfants, il y a des gens qui ont des enfants, ils les considèrent comme si c'était leur chose, comme si c'était à eux. Ils les utilisent pour faire de l'argent avec, pour les faire travailler, puis ils pensent pas du tout à leur religion ou à leur éducation. L'important c'est qu'ils ramènent l'argent à la maison. Même s'ils vont pas faire la salat, même s'ils vont pas faire le jeûne, même s'ils vont pas croire en Allah, c'est pas grave. Ramène l'argent à la maison. C'est ça l'important. Ça, c'est pas correct. On va être, les parents seront questionnés au jour de la résurrection. Comment ils ont éduqué leurs enfants. D'accord? Bien à l'ouest? Khair, inshallah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inshallah, mais ça, il y a eu beaucoup de rappels très bénéfiques dans cette petite rissa-là, comme on a pu le constater. Et c'est des leçons pour nous tous. Et ça aussi, ça a des rapports en tout ce qui, avec tout ce qui concerne la réforme de la société. Et on commence la réforme toujours par la base. Et donc ça, c'est des exemples, des enseignements de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent comment faire cette réforme-là. Hein? Et on aura le temps, Inch'Allah, dans les autres conférences et dans les autres cours, de rentrer dans d'autres aspects et d'autres détails de cette réforme islamique, Inch'Allah. De nos vies et de nos familles. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.